Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
18h17, l'invité politique est pour parler de ses 60 ans d'amitié franco-allemande, de ce traité de l'Elysée. Je reçois le président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir Jean-Dominique Giuliani.
Bonsoir.
On va écouter, si vous le voulez bien, Jean-Dominique Giuliani, le président Macron qui vient de s'exprimer, voilà ses tout premiers mots lors de ce discours qui se tient encore à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz.
Au cours de ce Conseil des ministres franco-allemand et dans le cadre de sa préparation, nous avons procédé à un grand travail de convergence et de synchronisation entre nos visions stratégiques pour l'Europe, pour nos deux pays et pour notre relation commune. C'est un travail toujours nécessaire, tant nous savons que nous avons besoin d'une convergence franco-allemande la plus aboutie possible dans tous les domaines, pour nos deux pays et pour faire avancer notre Europe.
Bon, voilà. Alors, c'est un discours qui a pris du retard. Vous comprenez bien qu'on a pris les tout premiers mots d'Emmanuel Macron. Maintenant, la discussion, d'après ce qu'on sait, porte notamment sur la guerre en Ukraine, avec Olaf Scholz qui dit à l'instant « Poutine doit retirer ses troupes ». D'abord, d'une manière générale, pourquoi est-ce que ce 60e anniversaire est-il si important ?
Parce qu'il y avait des difficultés depuis quelque temps après l'alternance en Allemagne. On a un gouvernement tripartite avec une coalition un peu hétéroclite. Dans une Allemagne très perturbée par des choix audacieux en matière énergétique, en matière industrielle, en matière d'exportation.
Ça veut dire quoi ça? C'est la fin du nucléaire
Ben oui, et donc beaucoup de choses s'effondrent, comme parmi les certitudes que les Allemands avaient, par exemple, considéré depuis la Deuxième Guerre mondiale que c'était les Américains et l'OTAN qui les protégeaient de tout. Et aujourd'hui, on voit bien que la guerre revient sur le continent. Et donc, les théories françaises, les stratégies françaises anciennes se trouvent quand même un peu valorisées par, hélas, par les circonstances. Et donc, il faut renouer un lien franco-allemand plus fort, alors que les Allemands considéraient qu'ils étaient la première économie d'Europe et ils exportaient en Chine. Donc voilà, il y a un moment où, comme chaque fois d'ailleurs, quand il y a une alternance dans un de nos pays, il y a des doutes sur ce lien franco-allemand. En réalité, c'est
ça
tout.
Ça peut être un tutu personnel aussi. Hein.
Alors, ça compte aussi, n'est-ce pas? Il faut du temps pour avoir la confiance. Giscard et Schmitt jouaient du piano ensemble. Mitterrand et Kohl ont donné des symboles très forts, etc. Et au passage, c'est pas 60 ans, n'est-ce pas? C'est dès au lendemain de la guerre qu'on commence.
Bien sûr.
Avec Robert Schuman.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu la signature de ce traité en 1963. Et on est dans une époque où la France est assez prospère, on est dans la France de l'après-guerre, elle est plus prospère de l'Allemagne qui cicatrise d'une certaine manière et qui veut oublier son passé de la guerre. Et donc on essaye de rallier l'Allemagne vers la France pour l'éloigner des Américains qui sont en guerre froide avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, alors j'allais vous dire, avant le 24 février, les cartes étaient très très différentes. Là finalement, ça ressemble quand même beaucoup à cette histoire passée qui revient un peu au galop.
C'est l'histoire de la relation franco-allemande. Ça revient en permanence, avec des termes différents, mais en réalité c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, les deux plus grands pays, les deux plus grandes économies, n'ont pas d'autre choix qu'au moins essayer de converger et de se mettre d'accord. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien qui se passe.
Voilà. Mais la différence, et c'est très très voyant, j'allais dire aujourd'hui, avec vous l'avez dit, avec l'OTAN qui reprend ce qui a été oublié. Souvenez-vous quand même des mots d'Emmanuel Macron sur l'OTAN, qui était, je crois, en mort cérébrale. Là, vous avez quand même un OTAN qui est extrêmement présent. Vous avez, en gros, l'image qu'on se fait, c'est que les Français sont dépendants des Allemands, qui eux-mêmes sont dépendants des Américains.
C'est un peu plus compliqué parce que c'est un réveil, ce qui se passe, parce qu'on s'aperçoit que Poutine personnellement d'ailleurs, a déclaré la guerre à notre modèle en réalité. Il ne veut pas du modèle démocratique à ses frontières parce qu'il a peur que ça le fasse tomber en réalité. Donc c'est un vrai souci stratégique et la réponse c'est bien sûr une alliance militaire, mais elle est insuffisante. Vous n'allez pas imaginer que le président américain allait mettre en péril son territoire pour sauver les frontières de l'Europe. Non, il ne le fera pas tout de suite, même si c'est un allié. Donc la thèse de la France, que Emmanuel Macron porte très bien d'ailleurs, ce matin j'étais à la Sorbonne, Olaf Scholz a rendu hommage à la vision stratégique d'Emmanuel Macron, en lui disant, ici, il y a 5 ans, vous nous avez dit des choses et vous aviez raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les alliés les plus proches sont les plus sûrs et que les Européens doivent apprendre, dans l'alliance avec les Américains, aussi à s'organiser pour être plus autonomes, plus stratégiquement indépendants, penser par eux-mêmes, prendre leurs responsabilités. Prenez exemple, Olaf Scholz a compris qu'il fallait remobiliser et renourrir la Bundeswehr, l'armée allemande, lui donner 100 milliards d'euros. Ça ne suffit pas d'acheter des armes. Il faut se mettre d'accord. Il y a une dissuasion française, une dissuasion britannique. Est-ce qu'elles travaillent toutes ensemble à la sécurité de l'Europe?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que Olaf Scholz, sur d'autres sujets, il a fait cavaler seul. Il est allé acheter des vaccins au mépris des, de la réglementation européenne, où tout le monde se mettait d'accord pour avoir des vaccins, suffisants en nombre dans les pays de l'Union européenne. Il est allé acheter, continuer à acheter du gaz russe alors qu'on a commencé à mettre le holà en disant voilà. Il fait cavaler seul, il prend des décisions. Il est allé acheter de l'armement américain alors qu'on a du très bon armement français, et vous venez de le dire aussi. C'est assez difficile à comprendre cette espèce de réconciliation, de traité de l'Elysée, de grand raout, alors qu'en réalité, on a quand même un chancelier allemand qui pense d'abord à son pays et à son économie.
Écoutez, je connais bien l'Allemagne, je parle un peu la langue du pays, etc. Les Allemands ont vécu pendant 70 ans dans un certain contexte que vous décrivez, très lié aux Américains, très ouvert sur le monde. Ça change du jour au lendemain. Donc il faut aussi prendre le temps de discuter, de les convaincre. Et une cérémonie comme aujourd'hui, ce sont des petits pas dans le bon sens. Et donc, il ne faut pas arrêter d'y travailler. Et je crois que c'est ce que font nos diplomates, tous nos grands dirigeants politiques. Lui-même, Scholz, quand il commence à évoluer, mais prenez par exemple son parti politique, socialiste, les SPD, la moitié sont pacifistes. Ils ne sont pas pour faire la guerre à tout prix. La constitution allemande interdit de faire la guerre. Donc, il faut trouver les complémentarités qui nous permettent d'être plus forts, nous, Européens. C'est très compliqué, mais on n'a pas le choix. Donc, il faut y travailler.
Là, vous allez, Jean-Dominique Giuliani, doucement sur le terrain des chars qu'on n'a pas voulu livrer, en tout cas s'inédier, comme le réclame Volodymyr Zelensky pour la protection de sa population. Vous dites effectivement qu'il y a d'un côté, vous ne l'avez pas dit, mais on sait que d'un côté, les Américains hésitent à envoyer des chars. Il y a aussi un problème avec les chars américains parce qu'ils marchent au kérosène et non pas au gasoil, donc c'est plus compliqué. Mais restons sur la position de Olaf Scholz. Il y a aussi le SPD. Et comme vous dites, qui disent, vous envoyez des chars, attendez, nous on est absolument contre. Donc il est lié par les Américains et par son parti en interne et par ses électeurs.
Oui, mais vous savez, on ne transformera pas les Allemands en Français du jour au lendemain. Donc nous,
je vous arrête tout de suite. On est tous Européens. C'est ce qu'on nous dit quand même depuis les pères fondateurs de l'Union Européenne.
Absolument. Mais c'est un combat tous les jours, n'est-ce pas? Parce que chacun a des identités.
Vous le savez mieux que quiconque.
Voilà, elles sont très fortes, etc. Et donc, il faut convaincre. Et là, on a vendu aux Allemands, aux citoyens allemands après la guerre, qu'il ne fallait plus jamais qu'ils fassent la guerre, compte tenu des horreurs commises par eux d'ailleurs. Bon. Donc ils l'ont acheté, et maintenant on leur dit, il faut un peu changer. C'est compliqué pour les dirigeants pour l'expliquer à leurs électeurs, qu'on va dépenser de l'argent pour les chars, qu'on se bat en fait en Ukraine pour notre modèle, c'est très compliqué. Donc il faut prendre ça en compte, et justement, entre la France et l'Allemagne, il y a ce traité, un autre traité qui est le traité d'Aix-la-Chapelle, et des habitudes qui ont été prises. C'est-à-dire, quand on a un problème, on se concerte. Alors, ce n'est pas facile, on n'est jamais d'accord, pour être très franc, mais on essaie de trouver une position commune. C'est la raison contre les passions, si vous voulez. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, les Chinois vous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec les Allemands? Comment avez-vous réussi ça ?» Ça n'a jamais existé dans l'humanité. C'est vrai. Donc voilà, donc ce n'est pas satisfaisant. Mais je crois que c'est la bonne voie pour essayer de trouver des positions communes et faire en sorte que l'Europe soit plus indépendante et puisse décider par elle-même.
Et alors, le travail diplomatique continue. À l'instant, Emmanuel Macron dit « Rien n'est exclu quant à l'envoi de Charles Leclerc ». Bon, là, encore une fois, c'est ni oui ni non, mais bon, on lance comme ça
une information. Vis-à-vis de la Russie, nous sommes, nous, occidentaux, raisonnables pour deux, n'est-ce pas? Et on ne veut pas provoquer l'escalade. Mais on ne peut pas se permettre aussi que Poutine gagne. Parce que s'il gagne, il continuera. Et donc, nous aurons la guerre. Donc, il vaut mieux l'éviter. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que nos dirigeants hésitent, et les Allemands plus que d'autres, parce que c'est une rupture avec tout le comportement qu'ils ont eu, un comportement pacifiste, tout pour la paix.
Quittons le terrain de la guerre quelques instants, parce que là, d'abord, le discours continue, donc on aura l'occasion d'en reparler. On parlait d'économie tout à l'heure, il y a eu un conseil des ministres franco-allemands. On sait que Bruno Le Maire travaille d'arrache-pied également avec son homologue allemand. Vous me disiez que, nous, alors, contre toute attente ou contre les idées qu'on peut se faire, nous, on a besoin des Allemands pour la dette, notamment. Enfin, beaucoup pour la dette, parce que c'est eux qui ont le cash dans l'Europe. Donc, on est quand même, d'une certaine manière, dépendant des Allemands pour la dette. Les Allemands, eux, vous nous dites, Jean-Dominique, ils ont besoin des Français.
Mais bien sûr, nous sommes tous dépendants, nous sommes dans le même marché aujourd'hui. Le premier exportateur dans le marché européen, c'est l'Allemagne. Donc, si on n'achète plus les produits allemands, si vous voulez, c'est pareil. Donc, on est liés. C'est ce qui a conduit Angela Merkel, avec Emmanuel Macron, pour... sortir de la crise Covid, à rompre avec tous les canons traditionnels de l'Allemagne, accepter qu'on emprunte pour relancer l'économie, qu'on emprunte ensemble. Bon, c'est complètement nouveau pour les Allemands. Pour eux, la dette, vous savez, c'est la culture protestante.
Bah, ils ont eu la dette. Le mieux, c'est qu'il n'y en a pas.
Voilà, ouais. La dette, c'est une faute. Oui, bon, enfin, en économie, c'est plus compliqué.
Oui,
n'est-ce
oui
pas
bien sûr.
Parce que les Japonais, les Américains, tout le monde est endetté, ouais. etc. Donc, c'est savoir ce qu'on en fait. Nous, en France, on a un problème parce que la dette finance le fonctionnement un peu trop. Voilà. Mais en revanche, personne... Emmanuel Macron essaie de convaincre les Allemands aujourd'hui. Je crois qu'il a raison, parce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit la même chose. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose pour défendre, consolider et promouvoir notre industrie. Il faut qu'on soit plus autonome, qu'on ne soit pas dépendant de tout. On sera toujours dépendant de l'énergie, d'un certain nombre de choses, mais qu'on choisisse nos dépendances. Et pour ça, il va falloir remettre de l'argent dans la machine pour arriver à réussir cette transition écologique et numérique qui bouleverse tout.
Et les Français ont des technologies qui peuvent intéresser les Allemands.
Oui, non seulement des technologies, un marché, des savoir-faire. On a trois fois plus de start-up, on a des licornes que les Allemands n'ont pas. Et en matière numérique, on est de très bon niveau. On a des scientifiques aussi. Nous sommes complémentaires. Alors les Allemands ont des qualités que nous n'avons pas toujours dans la durée, la discipline, le respect, mais en France, vous trouvez une inventivité, une créativité que beaucoup d'Allemands nous envient.
Il y a un sujet aussi qui est le nucléaire. On se souvient de la décision d'Angela Merkel sur le nucléaire et les conséquences que ça a aujourd'hui. En France, on a une politique, j'allais dire un pas en avant, deux pas en arrière sur le nucléaire, même si voilà, tout n'est pas... on garde un parc nucléaire qui est quand même très très important. Est-ce qu'il y a un rétropédalage possible en Allemagne sur la question du nucléaire?
C'est très difficile, je ne crois pas, parce que je crois que c'est quasi idéologique, si vous voulez. Ils ont vécu aux avant-postes de la guerre froide, avec une menace nucléaire. Ils ont vécu la tragédie du nazisme qui a failli avoir la bombe. Ils sont pacifistes aujourd'hui, donc il y a un vrai problème.
Et les Verts allemands sont très puissants dans le pays.
Oui, et il y a un vrai problème sur le nucléaire. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on respecte le fait que certains, dont la France, soient des champions du nucléaire, d'un nucléaire d'ailleurs très sûr et scientifiquement bien étayé, et que ceux qui ne le veulent pas et préfèrent les éoliennes ou le solaire puissent le faire, etc. On trouvera un terrain d'entente, on est en train de le trouver au niveau européen, mais on s'est beaucoup opposé, c'est vrai, sur le sujet.
Jean-Dominique Giuliani, on parle de la France, on parle de l'Allemagne. On est 27 dans l'Union européenne. Quelle place pour les autres pays?
Les autres pays ont toute leur place. C'est ça la difficulté de la prise de décision en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que si la France et l'Allemagne ne sont pas dans le même camp et ne se mettent pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord possible parce que chacun se sent plus proche, qui de l'Allemagne, qui de la France. Et donc, on arrive à la paralysie. C'est ça notre devoir commun, c'est ça que le traité de l'Élysée avait anticipé, c'est ça que Robert Schuman en 1950 a parfaitement intégré avec Jean Monnet en disant nous mettons d'accord. Et c'est le grand discours de Churchill en 1946 à l'université de Zurich qui disait maintenant il faut ramener la paix en Europe. La condition c'est que la France et l'Allemagne travaillent ensemble, même si c'est difficile. Les autres, il faut en tenir compte, les respecter, ils ont toute leur voix. Mais nous sommes la condition préalable à une Europe qui marche.
Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Dans un instant, ça fait débat.